Une start-up dans une organisation vieille de plus de 200 ans, ça vous interpelle? Eh bien, figurez-vous qu'il existe des start-up d'État. C'est une initiative qui a pour but de créer de meilleurs services publics. Et aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Gaël Toledano, qui a créé l'une de ces start-up à la Caisse des dépôts. Bienvenue sur Oser puis d'oser, le podcast qui rencontre les histoires d'entrepreneurs qui ont créé de nouveaux business au sein de leur entreprise. Je suis Franck Deban, cofondateur de Tango Start, cabinet de conseil en innovation et l'hôte de ce podcast. Chaque épisode, nous recevons un invité, une histoire et une entreprise. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec Gaël Toledano de la Caisse des dépôts. Bonjour Gaël.
Bonjour Franck.
Tu vas bien?
Oui, ça va et toi?
Super, ouais, aussi. Start-up, Caisse des dépôts, est-ce que tu peux nous donner un peu de contexte déjà sur ce que fait la Caisse des dépôts et pourquoi une start-up à la Caisse des dépôts et le but d'une start-up d'État du coup?
Alors la Caisse des dépôts, c'est une institution publique qui a en effet plus de 200 ans, qui a plusieurs types d'activités. Elle est plus connue pour ses activités d'investissement de long terme, de prêts bancaires, au territoire, aux collectivités locales. Elle fait beaucoup de développement territorial. Et accessoirement, mais pas des moindres, elle a une activité de gestion des retraites. Donc on gère les retraites d'un retraité sur cinq en France, de presque 4 millions de pensionnés. Voilà. Et depuis quelques années, le compte personnel de formation, qui est assez connu, et ainsi que d'autres mandats, notamment dans le handicap et dans le social. Donc moi, je travaille dans cette partie-là de la Caisse, à la direction des politiques sociales,
d'accord,
qui gère toutes les activités retraite, formation pro et handicap.
D'accord.
Voilà.
D'accord.
Et alors, pourquoi une start-up? Très bonne question. La direction dans laquelle je travaille, c'est la direction qui a les activités les plus traditionnelles, on va dire, à la Caisse des dépôts. Il y a beaucoup d'activités de gestionnaire. Et en 2018... on a eu des liens avec Betagov, qui est un incubateur de start-up d'État.
D'accord. Et juste avant, c'est quoi la mission de cette direction, en fait? Pourquoi elle existe et à quoi elle sert exactement?
Cette direction, elle sert à gérer les retraites, donc les retraites publiques, les retraites de tous les fonctionnaires ou des contractuels, sauf ceux qui dépendent du SRE, c'est un peu technique, mais voilà, du service de retraite de l'État. Mais tout le reste, c'est la Caisse des dépôts qui les gère, qui fait de la liquidation, qui fait de la paye, etc. Elle gère aussi les comptes des 33 millions de personnes qui ont des comptes formation. Et elle qui a monté la plateforme Mon Compte Formation.
Ouais, ouais. Et ta direction spécifiquement,
moi, je suis dans une direction je travaille sur une plateforme qui s'appelle Mon Parcours Handicap. C'est une plateforme nationale qui a été créée depuis 2 ans, portée par le secrétariat d'État au handicap, par la CNSA et la Caisse des dépôts, et qui vise à centraliser toute l'info, l'orientation, les conseils et les services aux personnes handicapées en France, et donc à devenir la plateforme nationale de référence pour les personnes handicapées en France.
D'accord.
C'est une initiative qui est quand même assez récente, qui date de 2018. Donc c'est une plateforme qui se construit. Pour l'instant, on a commencé par une brique qui est celle de l'emploi et de la formation professionnelle, puisque c'est... j'y reviendrai parce que ça a un lien avec ma start-up, mais c'est vraiment la problématique la plus prégnante aujourd'hui pour les personnes handicapées en France.
Ouais.
Mais à terme, on vise la scolarisation demain, les études supérieures, voire peut-être la retraite un jour aussi.
Ouais. Et donc, avant de faire cette start-up, tu étais dans cette direction à essayer d'améliorer les services autour de...
Alors moi, j'étais à la direction des politiques sociales, qui ne s'appelait pas comme ça à l'époque. J'ai toujours travaillé un peu dans le handicap. Enfin, je suis rentrée en 2014 à la Caisse des dépôts. J'ai travaillé dans un fonds qui s'appelle le FIPHFP, qui est un fonds qui gère, qui aide les employeurs à recruter des personnes handicapées. Donc, qui gère en fait les taxes des employeurs qui n'embauchent pas 6% de personnes handicapées.
Okay.
Et ensuite, je suis passée à la com, rien à voir, pendant 2 ans. La com sur tout ce qui était aussi activité sociale de la Caisse des dépôts. Et en fait, j'ai atterri dans l'univers des startups d'État complètement par hasard en 2018.
Alors justement, raconte-nous.
J'étais à la com depuis 2 ans. C'était super. Enfin, moi, je m'amusais bien. C'était hyper intéressant. J'avais une vision globale de tout ce qu'on faisait en matière de politique sociale. La seule chose que, voilà, peut-être qui me manquait un peu dans mon métier, c'était de communiquer sur des projets que d'autres portaient, en fait. Et moi, j'aurais bien voulu aussi porter un projet et être un peu plus sur le terrain, dans du concret. Et en fait, totalement par hasard, une ancienne collègue, en fait, m'a dit « La Caisse est en train de s'engager sur le sujet du handicap. On a envie de muscler notre positionnement sur le handicap, parce qu'aujourd'hui, on est très connu au niveau social, sur les retraites et sur la formation pro, mais pas sur le handicap. Pour ça, on a une idée, celle de porter une plateforme qui s'appelle Mon Parcours Handicap. On a déjà engagé des négociations, on a été approché par différents acteurs pour le faire. Et on aimerait que ce soit une approche un peu innovante. Et on aimerait le faire par le biais d'une start-up d'État. Est-ce que ça te dirait de devenir entrepreneuse pour cette start-up ?
Alors ?
Donc voilà, j'ai dit oui, sans hésiter. En fait, c'est une proposition qui m'a plu à plusieurs titres. Un, parce que je me suis dit, je vais enfin réussir à mettre en œuvre ce en quoi je crois, ou en tout cas ce pourquoi j'ai rejoint la fonction publique, c'est-à-dire vraiment mener des projets impact.
Ouais.
Et je vais découvrir une nouvelle méthodologie qui vise à révolutionner un peu la façon dont on fait des services publics. Voilà. Donc je suis tombée dans le bain des startups d'État par hasard, en fait.
D'accord.
Totalement.
Super. Alors du coup, tu changes de poste et tu te retrouves... Et c'est quoi, on dit maintenant, vas-y, monte ta start-up,
qu'est-ce qui s'est passé? Oui, alors très bonne question. Justement, moi, j'avais très peur de ça. Enfin, une de mes craintes, c'était, mais comment je vais faire? Je venais du métier, en fait. J'avais fait de la com, j'avais fait des partenariats, du handicap, mais je ne connaissais pas du tout la façon dont fonctionnait un business, même s'il n'y a pas d'enjeu financier, d'investissement financier à titre personnel. Je ne connaissais pas du tout la façon dont ça fonctionnait. Et en fait, alors, les choses sont bien faites quand même. J'ai été plongée, alors avant d'être plongée dans l'entrepreneuriat au sein de l'administration, j'ai été mise en contact avec Betagouv, qui est l'incubateur de start-up d'État. C'est un incubateur qui se trouve à la direction interministérielle du numérique, et qui accompagne depuis 2013 les intrapreneurs pour mener des projets comme ça à impact. Et en fait, tu arrives là, tu as une formation qui s'appelle la formation Alpha, où on t'explique pendant une journée toutes les étapes par lesquelles tu vas passer pour monter ton projet, ce que c'est des mesures d'impact, ce que c'est une itération, ce que sont des usagers du service public, enfin voilà, vraiment des choses très basiques auxquelles j'avais jamais vraiment réfléchi. Pour moi, c'était intuitif ou pas d'ailleurs.
Ouais.
Et surtout, on t'explique aussi, il y a un module qui s'appelle... alors, je ne me souviens plus du nom exact, mais c'était un truc du genre innover dans un environnement hostile ou un truc du genre. C'était vraiment un module de la formation Alpha. Ouais. Moi, je me disais, c'est sympa. Enfin, il y a des gens qui ont dû être confrontés à des situations un peu difficiles. Et en fait, bon, avec le recul, je comprends pourquoi en fait, ils essayent prévenir en amont que ça ne va pas toujours être facile et qu'il y aura des obstacles et qu'on devra surmonter.
Ouais.
Voilà. Et en fait, comment je suis montée en compétences, j'ai été mise en relation avec un coach en fait, le rôle des coachs à l'incubateur à Betagouv, c'est vraiment d'accompagner les entrepreneurs. Donc, c'est des binômes, en fait, au début. C'est un peu comme si tu étais cofondateur, en fait, avec le coach. Et qui t'accompagne sur la méthodologie, d'itération, de produits, de recherche usagée, etc.
Ouais. Lui, il a la méthode et toi, tu as le savoir-faire. Et
en l'occurrence, lui, il venait du secteur privé. Il avait monté plusieurs boîtes. C'était vraiment un entrepreneur dans l'âme.
Ouais.
Et moi, j'avais vraiment la casquette publique. Et je pense qu'on s'est mutuellement apporté parce que moi, tout ce qui était relations politiques, stratégiques, institutionnelles, c'était mon quotidien. Lui, pas du tout. Et du coup, je pense qu'en fait, ce qui est intéressant aussi pour Betagouv, c'est que les entrepreneurs apportent aussi la réalité du métier d'agent public, enfin du métier, la réalité de la vie d'un agent public dans l'incubateur. Et l'équipe a grandi, donc on était deux au départ, on était huit à la fin.
Ça a bien grandi. Et du coup, vous avez ils expliquent les méthodes, un petit peu comment innover en milieu hostile, etc. Et après, qu'est-ce que tu as dû faire, par quelles étapes t'es passée?
Par quelles étapes je suis passée? Alors juste pour faire un point sur ma start-up s'appelle Andy, A-N-D-I. Et elle vise à permettre à des personnes handicapées de trouver des immersions en entreprise, des immersions professionnelles pour tester des métiers. Comment on en est arrivé là? Moi, la feuille de route que j'avais, c'était un outil d'aide au retour à l'emploi. Point. C'est hyper large. Et il y a déjà plein de dispositifs qui existent. Donc, ce qui était important au début, c'était de comprendre le vrai problème qui était derrière la commande qu'on m'avait faite. Donc là, il y a eu 4 phases, en fait, si tu veux. La première qui a duré 2 mois, et ça, c'était déjà pas facile de leur dire à la Caisse des dépôts, enfin de dire en tout cas à l'administration, et c'est jamais facile de leur dire, on va prendre 2 mois, on va faire que de la recherche, de l'exploration, on va aller interviewer des gens. Donc on est allé interviewer 90 environ usagers, que ce soit énorme, personnes handicapées, employeurs publics, privés, accompagnants, prescripteurs, etc., pour comprendre les freins et les leviers au retour à l'emploi. Et on a fait aussi des open labs, on a invité des gens sur place, dans la Caisse des dépôts aussi. Voilà, on a essayé quand même déjà d'apporter de l'innovation en interne, aussi en montrant qu'on travaillait énormément avec des gens sur le terrain qu'on avait recrutés à la sauvage, sur Facebook, dans nos réseaux, etc. Et ensuite, on a, à partir de cette phase exploratoire, on a essayé de construire un produit et on a remarqué en fait que beaucoup de personnes handicapées connaissent des ruptures de parcours pour différentes raisons. Le taux de chômage aujourd'hui des personnes handicapées, c'est 18% en France. Donc c'est le double de la population générale. Leur taux d'emploi, c'est de 35%. C'est la moitié du taux d'emploi national, global. Ouais. Voilà. Donc, il y a vraiment des problématiques très importantes qui sont beaucoup plus larges que celles qu'on a adressées avec ma start-up, évidemment. Et une des problématiques qu'on a identifiées, c'était que souvent les personnes, alors soit s'engagent dans des études et elles ont des ruptures de parcours en cours d'études, assez importantes. Souvent dans le cas du handicap psychique notamment, par exemple, qui fait que ton parcours d'études va être beaucoup plus morcelé, ou d'un handicap physique qui peut t'apporter beaucoup de soins, beaucoup de choses qui vont faire que tu vas avoir un parcours d'études qui va être moins linéaire que d'autres. Donc ça, c'est pour les personnes qui sont en cours d'études, mais 90% des handicaps surviennent en cours de vie. Donc en fait, pour ceux pour qui ça survient en cours de vie, ils doivent se reconvertir souvent, ils ne sont plus capables de travailler de la même façon qu'avant. Et tous ces gens, ils se retrouvent face à des interlocuteurs qui n'ont pas le temps en fait, de prendre en compte des situations individuelles aussi bien que des associations, des accompagnants, etc., premièrement. Et deuxièmement, ils ne savent pas vraiment quelles sont leurs nouvelles compétences au vu de leur situation, que ce soit une rupture de parcours, etc. Oui. Et du coup, souvent, on les oriente vers des métiers par défaut, des métiers un peu...
Qui ne leur correspondent peut-être pas.
Qui ne leur correspondent pas. Par exemple, le métier de secrétaire administratif, c'est un métier qui revient tout le temps. D'accord. Quand on demandait aux gens qu'est-ce qu'on voulait faire, on me disait secrétaire administratif. Je comprenais, enfin moi, je n'ai jamais entendu parler de ce métier de ma vie. Et en fait, je me disais, mais pourquoi ils disent tous ça? Et en fait, c'est parce que souvent, ils sont orientés par des prescripteurs, par exemple, qui leur disent, t'es devenu inapte au travail. Si tu veux te reconvertir rapidement et facilement, secrétaire administratif, c'est très bien, fais ça. Et en fait, en creusant un peu, on s'est rendu compte que ces gens étaient enfermés dans des métiers compte tenu de leur handicap, qui prenaient en compte leur handicap et pas leurs compétences. Ouais, et on s'est dit, on va casser les codes avec cette start-up en leur donnant le choix de tester le métier de leur choix.
C'est ambitieux, c'est génial. Voilà. Et du coup, c'est ça ce que faisait Andy, c'était essayer de...
C'est ce qu'on a voulu faire. Ouais. Alors, je pense qu'on a été un peu idéaliste sur plein d'aspects. En tout cas, c'était notre philosophie. C'est celle qu'on porte encore aujourd'hui, tant bien que mal, entre guillemets, parce que, évidemment, que les prescripteurs sont hyper importants et qu'ils ont un rôle à jouer aussi. Hein. Enfin, nous, on ne peut pas tout régler. On ne pouvait pas tout adresser. Ouais. Et les prescripteurs, ils sont aussi là pour encadrer juridiquement, pour accompagner et tout. Donc, ils ont un rôle qui est tout à fait légitime. On ne peut pas tout réparer très facilement. Mais du coup, c'est ce qu'on a voulu faire. Ce qu'on a fait, du coup, c'est qu'on a fait une expérimentation dans le 95, au bout de 4 mois, où on a suivi en fait, le déroulement de 10 immersions professionnelles. Okay. Donc, on a choisi des employeurs en fonction des métiers que nous disaient les gens, en disant, moi, j'ai envie de tester le métier de... on a eu fleuriste, manutention, marketing, on a eu toutes sortes de métiers.
D'accord.
On a sélectionné des profils qui nous intéressaient. Ouais. On a sélectionné une dizaine de personnes handicapées qui pouvaient rentrer dans cette expérimentation.
Et qui sont à la fin, qui ont fait autre chose que secrétaire administratif.
On essayait de les pousser à leur retranchement. Quand ils arrivaient et qu'ils nous disaient « je veux être secrétaire administratif », on disait « mais c'est quoi ce métier ?»« Je sais pas, on m'a dit de faire ça. » »« Mais c'est quoi ton rêve en fait ?»« Mon rêve, c'est d'être fleuriste. » Ok, est-ce que ça te dirait de tester une immersion en tant que fleuriste? Oui. On va te trouver une immersion dans le 95 en tant que fleuriste. Ouais, donc ça, c'est une histoire, par exemple. Et il y en a un qui voulait vraiment être secrétaire administratif, qui l'a été, qui ensuite a fait une formation. Et lui, son projet était hyper mûr et c'était super. Donc voilà, c'est pas que ce métier, c'est le diable, pas du tout. C'est juste que en fait, on amenait les gens aussi à se poser des questions en se disant, c'est pas parce que t'es handicapé que tu dois rester ouais. enfermé.
Et de là, comment tu construis un produit? Est-ce qu'il y a un produit derrière? Ou ouais. j'ai l'impression que c'était très du conseil d'orientation personnalisé?
Non, alors c'était du conseil, mais justement, nous, notre objectif, c'était de se dire, on n'est pas assistante sociale, on n'est pas Pôle emploi, on n'est pas Cap emploi, on peut pas. Enfin, notre métier et notre rôle et nos compétences, c'est pas celle de conseiller, c'est celle d'ouvrir le champ des possibles. Du coup, ce qu'on a voulu faire en fait avec le produit qu'on a, donc on a sorti un MVP au bout de 6 mois. Aujourd'hui, il sert à 2 choses. Pour une personne handicapée, il lui sert à trouver une immersion professionnelle, donc trouver une entreprise ou tester le métier de son choix pendant quelques jours. C'est un dispositif qui s'appelle la PMSMP qui existe, qui est de droit commun, donc qui est ouvert. Si tu veux, tu peux faire une PMSMP.
C'est vrai, ouais. Je ne savais pas.
Si tu veux tester un nouveau métier.
Ouais, si je veux être fleuriste. Ouais.
Tu peux faire une immersion. Et on s'est dit, c'est super d'utiliser un dispositif de droit commun qui est sous-utilisé par les personnes handicapées et d'inciter les personnes handicapées à s'y intéresser et les prescripteurs à s'engager dans la démarche et les employeurs aussi. Et du coup, on a. J'ai perdu le fil de ta question.
Non, comment de là tu passais à un produit, en fait, ah oui, voilà. d'avoir fait ça.
Mais je
commence à comprendre. Tu as créé un réseau où tu pouvais mettre en relation les personnes qui cherchaient un autre emploi et puis tous ces petits stages de d'essais dans les différents boulots, c'est ça.
Et du coup, aujourd'hui, donc, le produit sert à 2 choses. Il sert, donc, comme je le disais, à trouver une immersion professionnelle, donc à trouver un employeur, pas à trouver une immersion, pardon. La nuance est quand même importante, à trouver un employeur qui est ouvert à t'accueillir en immersion.
Ouais.
Donc, tu vois, tu as un module où tu rentres 3 critères qui sont le métier que tu veux tester, ta mobilité, enfin ta zone géographique et ta mobilité, parce que c'est une grosse problématique chez beaucoup de personnes en situation de handicap de ne pas être forcément très mobile et de ne pas pouvoir se déplacer très loin. Donc, tu peux choisir, je cherche dans un rayon de 5, 10, 30 kilomètres. Et ensuite, on te donne accès à une liste d'entreprises. L'autre objectif qu'on avait à travers le service, c'était d'autonomiser les personnes pour les contacter. Parce que souvent, on fait des démarches à leur place. Ce n'est pas toujours optimal. L'idée, c'est que ça puisse être fait en autonomie ou avec une personne qui t'accompagne. Ça peut être les deux. Et on va essayer de guider les personnes et de leur donner des conseils pour décrocher une immersion.
D'accord.
Donc, on a des conseils sur l'outil. Ouais. Comment contacter une entreprise, que dire au téléphone, comment expliquer ce qu'est l'immersion, etc.
Ouais.
Voilà, l'immersion, c'est un procès, c'est pas rémunéré. Tu gardes tes droits en vigueur, ouais. que ce soit au ouais. chômage, etc. Ouais. Ou ton salaire, tu peux aussi être détaché pendant une semaine, faire une immersion.
Ouais.
Donc c'est un dispositif qui est hyper attractif pour les entreprises. Voilà. Et côté entreprise, la possibilité, c'est de se référencer, comme on dit accueillant, en disant, je m'engage dans une démarche hyper simple. En 2 clics, je peux me référencer. Demain, j'espère noter les métiers sur lesquels je veux accueillir en immersion et en tout cas mettre en visibilité ma structure, parce que l'un des problématiques qu'on avait identifié aussi, c'était le difficile sourcing de la part des entreprises qui nous disaient moi, la loi m'oblige à recruter des personnes handicapées ou au titre de sensibilisation, de RSE ou même au titre de mon entreprise, je veux recruter des personnes handicapées, mais je ne les trouve pas. On s'est dit, c'est les personnes qui vont venir à vous, en fait. Vous allez juste exposer votre structure
ouais.
et les personnes qui seront intéressées par vos métiers ou par votre entreprise vont vous contacter.
Ouais, ouais. Et beaucoup de valeur à créer des 2 côtés, j'ai l'impression.
Voilà, ce que tu ouais. dis, ouais. Du coup, on a voulu adresser beaucoup de choses.
Ouais. Et du coup, ça a duré combien de temps et qu'est-ce que c'est devenu, cette start-up d'État?
Alors, ça a duré combien de temps? Ça a duré... L'épisode Startup d'État a duré 1 an. On a été, donc le MVP est sorti en février 2020.
C'est 4 mois après.
Huit mois après le démarrage. On a démarré en mai.
Qu'est-ce que tu appelles MVP du coup? Parce qu'il y a eu pas mal d'expériences qui ont été faites avant. Qu'est-ce que tu appelles MVP?
MVP, c'est le produit en ligne.
D'accord. Ok.
Et donc, le produit
une
en ligne.
Plateforme où.
Ouais.
Où vous pouviez avoir ces mises en relation et ces.
C'est ça. Mais au début, il y avait un module, donc il y avait 7 listes d'entreprises. Il n'y avait pas encore le formulaire pour entreprise pour se référencer. Il y avait juste une liste d'entreprises brutes pour les personnes handicapées, de données qu'on avait récupérées de différents acteurs. Et il y avait aussi un module pour tester son éligibilité à l'immersion. Est-ce que je peux faire une immersion professionnelle? C'est aussi un manque d'informations.
Ouais.
Et donc, en fait, les personnes peuvent tester. Moi, je suis suivie par Pôle emploi. J'ai une RQTA, une reconnaissance.
Tu m'as dit que tout le monde pouvait le faire.
Ouais, mais tout le monde peut aussi le faire. Mais nous, on voulait mettre en visibilité le dispositif pour les personnes handicapées.
D'accord.
Mais justement, c'est une super question parce que nous, On a voulu. En fait, le MVP, il était déjà assez ambitieux. Il y avait déjà beaucoup de choses dessus. Et je pense qu'on aurait gagné à sortir quelque chose de plus tôt et de plus petit. En D'accord. mettant juste une liste d'entreprises à disposition au début, ensuite en sortant le module d'éligibilité à l'immersion, ensuite en sortant le référencement employeur. Et nous, on a voulu faire beaucoup de choses très rapidement pour faire nos preuves. C'est aussi un des biais que j'avais, moi, en tant qu'entrepreneuse dans l'administration, de me dire, il faut que je leur montre que c'est super, les startups d'État, et qu'on arrive à créer beaucoup de valeur en très peu de temps. Et en fait, oui, mais ouais. voilà, j'ai l'impression que...
C'était quoi la position de ton binôme par rapport à ça?
Alors lui, je pense qu'il comprenait le fait que je doive faire mes preuves rapidement. Personne ne me mettait la pression pour faire mes preuves. Hein. C'était moi qui me la mettais toute seule ouais, en me disant je porte un discours nouveau dans l'administration, il faut que je prouve que ça marche. Lui, il me tempérait sur plein d'aspects en me disant, enfin, la méthode, il la connaît, je pense, en me disant, bah, là, ça sert à rien d'avoir un produit parfait, il faut qu'on ait quelque chose qui marche, c'est pas grave si c'est pas hyper beau, tant que ça fonctionne, on l'améliorera. Moi, je me disais, faut que ça claque, faut que ce soit hyper beau, en plus d'être efficace et d'avoir un impact, évidemment, mais faut en mettre plein de la vue.
Ouais,
donc, lui, je pense qu'il essayait de me tempérer un peu sur ces aspects. Ouais. Et en interne, je pense qu'ils étaient contents parce que ça avançait très vite et ça avançait bien et, ouais. et on avait créé une super dynamique aussi.
Ouais. Voilà. Génial. Et justement, tu parles d'impact. Quel impact a eu le produit et jusqu'où ça a été après?
Alors l'impact, il est très difficile à mesurer parce que déjà, on n'a pas de ROI, on n'a pas d'impact business. Quoi. On
sûr,
a un impact social. Je dirais, alors, il y a eu, oui, ce que je t'ai pas raconté, c'est que le lendemain, donc... pratiquement le lendemain de la sortie du MVP, il y a eu le Covid, le confinement. Donc nous, ce qu'on avait prévu pour justement valider notre impact et pour déployer la solution qu'on venait de sortir, qui était peu connue, c'était d'aller dans des... On avait passé un appel à manifestation pour que des territoires, des départements pilotes veuillent tester notre dispositif et pour travailler sur des bassins d'emploi avec des employeurs, des prescripteurs, des personnes handicapées.
Appel à manifestation.
Donc un appel à manifestation d'intérêt. C'était pas c'était un appel à manifestation d'intérêt en disant vous êtes une collectivité, vous êtes un pôle emploi, vous êtes intéressé par tester Andy sur votre territoire. D'accord. Manifestez-vous. On a eu 6 départements pilotes qui se sont manifestés et on avait prévu d'organiser des open labs, donc des ateliers dans ces 6 départements pour mettre tout le monde autour de la table pour se dire comment maintenant on met en œuvre le produit concrètement, quoi, sur le territoire.
Ouais.
On a pu en faire un à Clermont-Ferrand, avec Michelin, dans les locaux de Michelin, avec Cap Emploi 63, Pôle Emploi, des super entreprises, des personnes handicapées, enfin, c'était top.
Ouais.
On a appris plein de choses. Et le lendemain, il y a le Covid, donc on n'a plus pu aller sur le terrain. Et donc notre solution, on s'est dit, on va devenir déconnecté du terrain et ça aura plus d'impact.
Ouais.
Donc ce qu'on a fait pour essayer de continuer à avoir un lien avec le terrain, c'est qu'on a mis en place des newsletters. Donc, toutes les semaines, on envoyait aux personnes handicapées des conseils pour s'orienter, etc. Et des newsletters pour nos partenaires en disant « on arrive, on revient, faites-nous remonter vos besoins ».
Vous n'avez pas trouvé un moyen de continuer l'activité sans aller sur le terrain? De continuer à développer l'activité sans aller sur le terrain?
Du coup, on s'est dit « on va tabler sur les partenariats ». Mais si, du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a... On s'est dit, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, comme on peut pas faire d'immersion, ce qui était quand même notre valeur ajoutée, ce qu'on va faire, c'est qu'on va muscler notre base employeur.
Oui, parce que les immersions, c'était arrêté aussi.
C'était le Covid, tout était fermé, en fait, l'entreprise était fermée.
De ce point de vue.
Et donc, en fait, notre produit, il est arrivé à un moment où le marché, on va dire, était pas prêt, quoi. Enfin, était...
C'est vrai qu'une immersion en visioconférence, c'est
pas la même chose. C'est compliqué, surtout pour des personnes, notamment pour des personnes handicapées qui... l'objectif, c'était la mise en lien, en fait, physique, humaine.
Ouais.
C'était pas que ce soit...
Ouais.
Et du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est dit, on va étoffer notre base d'entreprise. Donc, on a sorti le module dont je t'ai parlé de référencement handi accueillant. Et on a fait du business development, donc on a organisé des webinaires, on a incité les entreprises à s'inscrire massivement sur le service en se disant on a des bases d'entreprises qui sont partantes et quand ça repartira, on...
Et ça repart
un peu au bout de 6 mois, sauf qu'en fait, au bout d'un an, la start-up a été consolidée dans l'administration. Donc l'objectif d'une start-up d'État, en fait, c'est de passer du statut de start-up d'incubation au statut de service public pérenne. C'est le cas du Pass Culture, notamment, dont on parle beaucoup en ce moment. C'était une start-up d'État au départ. Ou de DataGov, le portail d'open data de l'État, c'était une start-up d'État. Alors, il y a plein de start-up d'État, on ne sait même pas que c'était des start-up d'État, parce qu'en fait, c'est devenu des services publics qui sont utilisés. Du coup, nous, en fait, la Caisse des dépôts nous a dit « Nous, on adore ce que vous faites, c'est génial, et on aimerait que ce soit pérenne, on aimerait que l'administration le pérennise. » Donc, on a été consolidés dans mon parcours handicap, mais à un moment où on était en phase de croissance, à un moment où on était en phase où on n'avait pas encore fait de preuve d'impact.
Oui, d'accord.
Donc, c'était un risque, en fait, de se dire « on n'a pas fait de preuve d'impact, il va falloir les faire dans un contexte de retour à l'administration. »
Oui. C'est comme déployer une solution, on ne sait pas exactement si elle marche ou pas.
Exactement. Et en même temps, c'était quand même une chance parce que la Caisse voulait de ce produit, était prête à l'accueillir et avait envie de continuer à investir dessus sur le long terme. Ce qui n'est pas le cas de toutes les startups d'État. Il y a souvent, je ne sais pas si c'est souvent, mais j'entends parfois des histoires de startups qui, dont l'administration ne sait pas quoi faire en fait, au moment de sa réintégration. C'est trop compliqué au niveau SI, c'est trop compliqué au niveau juridique.
Ouais.
Du coup, le truc devient une espèce d'ovni qui gravite autour de l'administration. Nous, ils nous ont dit, nous, on est OK pour l'accueillir. Par contre, il faut qu'on l'accueille à un certain moment.
Voilà, pour la consolider en mode service public avec les autres services disponibles.
Qui n'était pas très compatible avec notre temporalité à nous.
Ouais.
Et donc, du coup, les preuves d'impact, aujourd'hui, je dirais 80 connexions par jour, ce qui est quand même pas mal parce qu'on ne fait aucune communication.
Ouais. Mais par exemple, tu as permis à combien de personnes de trouver un emploi ou de tester un emploi ? Est-ce que tu as une idée de ça ou pas du tout ?
Le problème, c'est qu'on ne peut pas suivre qui a fait effectivement une immersion. Ça, c'est toute la problématique d'Andia. C'est-à-dire qu'on sait qui appelle les entreprises, qui clique sur quoi, qui va au bout du parcours, qui va au bout du funnel. Mais par contre, si l'immersion s'est effectivement réalisée, on perd les usagers à ce moment-là.
Ouais.
Pourquoi ? Parce qu'on a besoin d'un compte connecté et d'un compte personnel pour savoir le matching final.
Et du coup, vous avez amené combien de personnes au bout du funnel, en fait ?
Je pense environ 1500.
1500 ?
Je pense. D'après les stats que j'ai, de gens qui cliquent et qui arrivent au bout du funnel. Après, est-ce qu'il y en a 1500 qui font des immersions ? Je ne peux pas te le dire.
Ouais.
Et justement, en termes de rétex, c'est hyper intéressant parce que... il aurait fallu qu'on soit accompagné pour prouver qu'on a de l'impact.
Tu penses que l'intégration a été faite trop tôt ?
Je pense qu'elle a été faite un peu tôt. Je pense que c'était quand même une chance pour nous parce que ça nous a permis de survivre alors que dans un contexte de Covid où c'était vraiment hyper difficile. Que Andy est pérennisé, qu'on bénéficie aussi de l'aura d'une plateforme qui est mon parcours handicap, de la Caisse et des partenaires avec qui on a travaillé.
D'accord.
Donc, je suis quand même contente qu'on soit... Enfin, heureusement qu'on a été consolidés.
Une des erreurs dans les innovations dans les boîtes, c'est effectivement vouloir justement intégrer le produit trop tôt, alors que l'organisation elle-même n'est pas prête à intégrer le produit. Il n'a pas encore fait complètement ses preuves d'impact. Il n'a pas établi son mode de fonctionnement optimal. Et du coup, il est perverti et ça bloque un peu le développement. Ça, c'est des choses qu'on voit dans les entreprises en général.
Oui, c'est ça.
Est-ce que tu as vécu un petit peu, peut-être ?
En fait, il y avait beaucoup le côté très sensationnel de l'innovation, tu vois, en tant qu'administration, c'est génial que des gens portent ce genre d'initiative. Je pense qu'ils étaient vraiment contents et fiers de ça, et ils peuvent l'être parce qu'ils ont fait un pari sur quelque chose qui n'était pas du tout garanti, en fait. Ça aurait pu complètement s'éteindre au bout de quelques mois, où on aurait pu passer la phase d'exploration, se dire, désolé, on n'a pas de produit crédible à proposer, tout a déjà été fait, on abandonne. Ils nous ont quand même laissé expérimenter pendant un an. Donc ça, c'est top. Mais ça se rapporte aussi au métier du marketing, ça, en fait. Comment tu marketes ton produit, comment tu fais en sorte qu'il trouve son marché, comment tu vas voir les différents acteurs, comment tu suis des mesures d'impact, et tout ça, comment tu fais du CRM, enfin, comment, voilà. Et ces outils, une partie n'existe pas au sein de l'administration. Ensuite, CRM, j'ai essayé de me renseigner, c'est pas très... Enfin, voilà. On ne gère pas en fait, du CRM comme ça, tu vois.
Ouais.
On gère des relances automatiques, des gestionnaires qui gèrent des dossiers administratifs. On n'a pas vraiment besoin d'un CRM pushy, tu vois.
Ouais.
On n'a pas vraiment besoin de marketing offensif.
Ouais.
Et du coup, quand tu crées un produit, en fait, tu dois être dans une stratégie hyper offensive. Et ça, ce n'est pas encore dans l'état d'esprit, je pense, de l'administration. Donc, c'est normal que ce soit des demandes qui soient en tu vois, en éternel process, en fait.
Tu parlais de innover en milieu toxique, la formation.
Alors, c'est pas toxique.
C'est pas toxique. Hostile, pardon.
Quand même.
Du coup, c'était quoi le côté hostile que t'as pu découvrir, toi ?
Alors, il y avait deux côtés hostiles, hein, je pense. En externe, le côté hostile que j'avais pas anticipé, moi, c'était qu'on était personne, on était une équipe hyper jeune. Quand je dis on était personne, pour eux, on avait... Déjà, la Caisse des dépôts n'est pas très connue pour son activité dans le handicap. Ça commence, même si le FIPHFP, c'est une activité handicap qui a 15 ans, mon parcours handicap, c'est récent. Enfin, voilà, c'est pas non plus ce sur quoi on attend la Caisse des dépôts. Donc, quand on arrivait en disant on est de la Caisse des dépôts, on porte une start-up sur handicap, les gens en externe disaient mais pourquoi, vous êtes qui, je comprends pas, c'est quoi votre légitimité. Donc, déjà, il y avait ça.
En externe, ça c'était en externe.
Ça c'était en externe. Je reviendrai sur l'interne après, mais déjà en externe, il y avait ça. Il y avait faire ses preuves, convaincre les acteurs de nous suivre alors qu'on n'a pas fait ses preuves. Bon, ça c'est comme dans toute start-up. Mais moi, je n'avais pas trop anticipé cet aspect-là en me disant ça va bien se passer. En fait, ça s'est globalement très bien passé, mais on s'est quand même heurté à des gens qui nous ont dit nous, on part des startups lucratives, on a investi notre argent. En gros, que vient faire là l'État au lieu de nous financer, nous, quoi.
D'accord, ok. Donc, la surprise un peu des différents interlocuteurs avec qui vous avez parlé sur ces deux premiers mois.
C'est arrivé deux fois, ça. Ouais. Globalement, les gens étaient quand même hyper bienveillants. Dans le monde du handicap, ça va, c'est pas non plus un monde totalement hostile. Ouais. Et en interne, je pense qu'il a été dur, c'était deux choses. Premièrement, convaincre, et ça je l'ai fait tout au long du projet, d'investir dans un projet progressivement. Donc qu'en fait, il faut croire en initiative dont personne n'a aucune garantie qu'elle va marcher, qu'on n'est pas dans un cycle en V, donc on peut se tromper, que peut-être qu'on aura investi de l'argent pour rien, mais c'est de l'argent public, donc c'est normal en fait que l'administration n'ait pas envie de se planter sur les fonds qu'elle investit. Et d'un côté, tant mieux, hein, ça veut dire qu'ils font attention à leur... ils font attention à l'argent public. C'est convaincre en disant aujourd'hui, Andy, c'est 10 immersions, demain, ce sera 250 immersions, et après-demain, ce sera 1000 immersions. Ouais. Pour l'instant, eux, ils ne voient que les 10 immersions et ils se disent, est-ce que ça va marcher, en fait ?
Ouais. Mais ce programme de start-up d'État t'a aidé à gérer ces aspects ?
Oui et non. Oui, parce qu'ils ont l'habitude, en fait, des métiers qui ne sont pas du tout acculturés à ça. Donc, ils nous ont aidés à régler un certain nombre de choses, notamment au niveau juridique, notamment au niveau informatique, etc. Comment évangéliser, comment donner des éléments de langage, comment rassurer. Ils ont des juristes aussi en interne qui peuvent rassurer, par exemple, nos juristes. Enfin, ils ont des choses, des process encadrés. La direction de l'incubateur tous les six mois, on passe devant un sponsor en interne qui refinance ou pas la start-up en fonction de son impact. Donc nous, on a été refinancé une fois et ensuite on nous a dit maintenant il faut être consolidé. Les sponsors sont là, en fait, les directeurs de l'incubateur sont là pour faire tampon auprès des sponsors, auprès des métiers, si jamais il y a des frictions. Et ça, c'est hyper intéressant, en fait, je trouve, comme apprentissage. C'est permettre aux métiers de ne pas raisonner comme ils le font sur des gros volumes, tu vois. Eux, ils gèrent des millions, voire des milliards d'euros. Comme je t'ai dit, on gère les retraites de presque 4 millions de pensionnés. Le CPF, c'est énorme comme volume. Évidemment qu'il faut que tout soit d'équerre. Il faut qu'au niveau RGPD, tout soit... au niveau RGPD, de toute façon, mais au niveau RGPD, au niveau sécurité informatique, sécurité juridique... tout est blindé de partout dans les administrations. Ouais. Nous, on arrive, on expérimente. En fait, on était un labo, quoi. Ouais. On était vraiment de briques et de broc avec nos petits... on utilisait des outils qui n'étaient pas internes. On faisait passer des sondages sur Typeform. C'est des outils qui ne sont pas internes à l'administration.
Donc, tout ce qui est RGPD, sécurité, tout ça, vous êtes passé au-dessus un petit peu
Alors, on n'est pas passé au-dessus, mais... on n'utilisait pas les process habituels. Par exemple, on n'allait pas faire des process hyper lourds au début en leur disant on va perdre plus de temps qu'autre chose. Ce qu'on vous propose, c'est de faire signer des autorisations. Par exemple, quand on a fait l'expérimentation, tous les gens qui ont fait partie de l'expérimentation, on leur a fait signer des autorisations de faire partie de l'expérimentation. C'était sur des feuilles volantes, mais signées par les parties, qu'on a remis au juridique, etc. Donc, on est dans l'esprit de la loi, on est dans l'esprit de ce qui se fait et on ne fait rien en dehors des clous. C'est sûr que si demain, sur le CPF, on ne va pas faire signer des autorisations manuelles aux gens. Donc ouais. Voilà, on bricole, mais dans l'esprit de ce qui est, enfin, des métiers. Et c'est vrai que ça, ce n'est pas facile souvent à entendre.
Si tu avais fait le même projet en dehors de la Caisse des dépôts, est-ce que tu aurais pris des raccourcis parfois ou tu avais essayé de faire le même projet,
je sais pas. C'est une bonne question. Oui, mais je pense que j'aurais... C'est un peu bizarre de dire ça, mais je ne sais pas si j'aurais aussi bien réussi. Enfin, on a quand même été aidés sur pas mal de choses. Donc oui, j'aurais pris des raccourcis sur certaines choses. Ouais. Par exemple, les outils qu'on utilisait, je me serais moins pris la tête en me disant « c'est pas compatible avec la roadmap de notre administration, etc. » Donc on serait allé plus vite sur certaines choses. Le CRM, on a mis très longtemps à en trouver un. Peut-être qu'on en aurait, je ne sais pas, acheté un par nos propres moyens. Ouais. Voilà, il y a des choses sur lesquelles on serait allé plus vite, mais il y a des choses sur lesquelles on serait allé moins vite. Par exemple, on a un énorme réseau d'employeurs publics à la caisse. Heureusement qu'ils étaient là parce que grâce à eux, j'ai pu les contacter. Quand on a organisé nos Open Labs, on avait des super locaux où on pouvait accueillir des gens. On était dans des belles conditions. On avait un open space à nous. Franchement, enfin, on était quand même assez aidés en interne sur plein de choses. Donc, c'est difficile de répondre parce qu'il y a des choses qui se seraient allées plus vite, mais d'autres où, ouais. Voilà, d'autres où quand même j'étais très contente de pouvoir compter sur un environnement quand même très, très confortable et bienveillant. Quoi.
Ouais, ouais. Je ne t'ai pas demandé, mais tout ça, c'était à ton bureau habituel ou est-ce que vous étiez dans un bureau spécial ?
On était à moitié dans un bureau, donc dans l'open space, dans les locaux de la Caisse des dépôts, et à moitié à l'incubateur, à Betagouf. Donc un jour par semaine, on venait à l'incubateur. Et ça, c'est génial parce que tu communiques avec des gens qui portent d'autres projets, d'autres startups, tu te fais plein de contacts, on travaille tous un peu sur la même problématique, sur le social, sur le handicap, etc. Et du coup, en fait, tu démultiplies ton réseau. Mmh. Pareil, tu as des formations grâce à l'incubateur. Par exemple, le no-code. Tu vois, moi, je ne connaissais pas trop le no-code. Tu peux suivre des formations no-code. Tu peux suivre des formations pour muscler, je sais pas, tes présentations, tes publications, tes posts, parler à certains types d'administration, dénouer des problèmes. Donc, l'incubateur, tu peux quand même beaucoup compter sur lui, quoi.
Ouais, super.
Donc c'était bien d'être une semaine là, enfin d'être une journée par semaine déconnectée de l'administration et vraiment immergée dans l'incubateur.
Ouais, ouais, ouais. Et toi, du coup, de cette expérience, qu'est-ce que t'en tires, toi ?
À titre perso.
Ouais, à titre perso, à titre pro, t'es passé à travers quelque chose d'un peu inhabituel, dans ton parcours, c'était pas forcément prévu.
Alors moi, ça m'a ouvert un pan entier de métier que je ne connaissais même pas il y a 2 ans, qui était, par exemple, product owner, le product management. Enfin, vraiment, comment tu incarnes la vision et la stratégie d'un produit quel qu'il soit, hein, que ce soit public ou privé, comment tu coordonnes une équipe qui a des compétences que tu n'as pas, les nouveaux métiers du numérique aussi que je ne connaissais pas. J'avais bossé avec un UX designer de ma vie avant ça, ouais. Avec des développeurs, etc. Enfin, pour moi, c'était un monde qui n'était pas du tout le mien et auquel j'allais potentiellement jamais avoir affaire. Donc, ça m'a ouvert à plein de nouveaux métiers. Je me suis rendu compte que ces métiers existaient dans mon administration, existaient à la caisse, enfin, développeur, évidemment, hein, mais UX designer, product owner, c'était des métiers... J'entendais parler, mais je savais pas spécialement que c'était des métiers qu'on avait en interne et sur lesquels on était quand même structurés. Pareil, des méthodologies, des méthodes agiles de travail. Et à titre, donc ça, à titre professionnel, je me suis aussi rendu compte qu'on pouvait faire des services publics autrement et qu'on pouvait... C'est pas parce qu'on était des grosses structures qu'on pouvait pas... porter des initiatives qui étaient proches des usagers. Je pense que ça, on a quand même réussi à le faire, ouais. Et réussi à aussi changer l'image de l'administration. C'est pas parce qu'on est une énorme administration qui gère des millions d'euros qu'on est forcément déconnecté du terrain. On peut être proche du terrain, on peut être humain, on peut incarner des politiques publiques.
Ouais.
Et je pense que c'est ce qu'a fait la Caisse. Et à titre personnel, moi, ça m'a fait énormément grandir. Enfin, j'ai fait un bond colossal dans ma tête, déjà. J'ai osé faire quelque chose que j'aurais jamais fait seule, je pense. Le fait d'être accompagnée à la fois par mon administration et portée dans cette démarche, et aussi accompagnée par l'incubateur, ça a fait que j'ai osé me lancer. Toute seule, j'aurais peut-être jamais fait, alors que j'aurais peut-être eu cette idée ou eu une bonne idée un jour, mais en me disant... je ne vais pas me lancer.
Ouais.
Et je me suis aussi rendu compte que c'est hyper satisfaisant de voir que tu es utile. Enfin, Je le savais, en fait, mais quand tu as vraiment des usagers qui viennent te voir en disant « ça m'a aidé, merci pour cette immersion, merci de m'avoir accompagné, merci de m'écouter », ça donne du sens à ton métier, en fait.
Ouais. Ouais. Mais tu as plus de sens parce que tu es plus proche de l'impact que tu crées, au fait, et tu vois plus les conséquences de tes actions, et donc ça te, ça te fait grandir dans ce sens-là. Ouais.
Voilà, et du coup, tout ce qui est social, ou même social tech, ou même problématique sociale, je pense que c'est super, hein, mais faut vraiment essayer de garder tout le temps l'impact. Et il y a plein de moments dans la start-up où on était pris dans des altermoiements de toutes sortes et où on se disait on en oublie nos usagers, on en oublie ce pourquoi on est là, il faut se recentrer. Ouais. C'était aussi le rôle du coach, de nous dire on se recentre sur notre métier. Et c'est vrai que quand tu es dans le quotidien de ton métier, en fait, parfois tu es pris dans des process et tu oublies le sens, en fait.
Ouais. Ouais.
Et bon, après, Betagouf, c'est un peu des idéalistes là-dessus et ils nous poussent vraiment dans notre retranchement. Et du coup, c'est vrai qu'on est un peu des hippies, mais un peu des hippies dans l'administration. Enfin, on est souvent vus comme des gens qui
sortent des pionniers, des gens marginaux.
Pas marginaux, mais oui, t'es toujours obligé de jouer avec les process classiques pour sortir du cadre. Voilà. Et aussi de convaincre l'administration de te laisser être autonome sur ton produit et de te faire confiance. Parce que si tu re-rentres dans un cadre classique trop vite, t'innoves pas, en fait.
Ouais.
Voilà.
Bon, bah super, c'est une super expérience. Quel conseil tu pourrais donner à toi au début du projet, ou à un entrepreneur qui se lance comme ça dans une démarche similaire?
Le conseil que je donnerais, c'est de se lancer. non, mais c'est de ne pas avoir peur de se lancer. Enfin, en gros, je comprends maintenant. Je me dis, on est les plus légitimes, en fait, pour porter des initiatives innovantes. Limite, on l'est beaucoup plus quand on est au sein d'une administration que partout ailleurs, même limite dans le privé. Parce qu'en fait, on parle tout le temps de la méconnaissance, le mécontentement vis-à-vis des services publics, etc. Mais en fait, quand on se met à la place des usagers, et quand on travaille dans ces services publics, on est les plus à même de comprendre les problématiques des usagers. Et du coup, c'est facile, entre guillemets, pas de lancer une start-up des patins ni de la porter, mais en tout cas, c'est facile de se mettre à leur place, d'être empathique. Et du coup, une fois qu'on est lancé, je pense qu'on est parti, en fait. Une fois qu'on a compris leurs problématiques et qu'on est empathique, on est accompagné. On est accompagné que ce soit par notre administration ou par l'incubateur. Mais je ne me suis pas sentie seule, en fait. Enfin, je ne me suis pas du tout sentie seule dans cette expérience.
Ouais.
Et donc, du coup, voilà, ce serait de se lancer parce qu'on sera accompagné si on y croit. Voilà. Et si je devais aussi dire quelque chose, c'est que c'est aussi satisfaisant. C'est aussi super intéressant de voir à quel point ça a pu changer l'administration. Je ne pense pas que c'est juste vis-à-vis de ça. Hein. Mais en tout cas, je pense que ça a quand même initié un mouvement en interne qui était déjà très latent, etc. Je n'ai pas réinventé la poudre. Mais en tout cas, de voir qu'on aidait des gens au quotidien, mais surtout qu'on avait leur retour et qu'on savait changer de cap avec eux, etc. C'était hyper satisfaisant, même pour la direction, même pour ma direction, en ce moment, pour la direction des retraites. Ça s'appelle la direction des politiques sociales maintenant. On est dans une démarche vraiment d'essayer de ramener de l'innovation, de l'incubation en interne. Il y a un département d'innovation qui s'est monté. Ils sont en train d'essayer de ramener, enfin de faire en sorte que d'autres personnes portent des démarches d'entrepreneuriat.
D'accord.
Et du coup, j'ai l'impression que ça a quand même eu un effet halo positif.
Oui, tu as montré la valeur d'avoir une démarche comme ça. Et du coup, il y a eu des répercussions en interne.
Voilà.
C'est ça.
C'est-à-dire que même plus que des preuves d'impact matériel, plus que le nombre d'immersions qu'on a réalisées, rien que le fait de travailler avec cette méthodologie, les gens se disent. En fait, c'est ça aussi notre mission. Et c'est pas parce qu'on est l'État qu'on doit faire des sites poussiéreux et des choses moches et qui marchent pas et qui ressemblent aux années 80.
Ouais, c'est ça.
Voilà, on peut faire des choses modernes, on peut être proche des usagers, on peut faire du design de services publics.
Ouais. C'est génial. D'écouter, j'ai l'impression que tu vas avoir un remède pour la phobie administrative.
Mais franchement, Bétagouv, l'incubateur travaille beaucoup sur ces problématiques-là, de dématérialisation des aides. Bon, on est aussi, c'est aussi le cas sur mon parcours handicap d'ailleurs, dématérialisation des aides, dématérialisation des assis, essayer de faire en sorte que les parcours administratifs soient moins des parcours du combattant et plus agréables, plus beaux. Ouais. Voilà. Ouais. Je ne sais pas si on réussira, mais en tout cas, c'est une ambition qui est commune en ce moment.
Bah écoute, super, super. Bah écoute, merci beaucoup d'avoir partagé cette histoire avec nous.
Merci à toi.
Et puis bonne continuation alors.
Merci beaucoup.